Et si on profitait de ce jour de fête pour parler d'Europe à travers les médias? Beaucoup y consacrent des pages spéciales, les télés et les radios comme France Culture montent des journées ou des semaines consacrées à l'Europe. On peut lire, voir ou entendre des reportages ou des entretiens avec des artistes, des intellectuels ou de simples citoyens de l'Union. Par exemple, depuis ce matin 6h et jusqu'à demain 6h, Arte diffuse un documentaire exceptionnel intitulé 24h Europe, The Next Generation. Il s'agit du quotidien filmé en temps réel de 60 jeunes Européens de 15 à 30 ans, originaires de 26 pays. En voici trois courts extraits.
Nous, les Ukrainiens, nous avons toujours été la porte d'entrée de l'Europe, historiquement. Nous protégeons cette porte, cette frontière orientale du continent. Donc nous sommes Ukrainiens et Européens. Nous nous sommes toujours sentis comme ça.
Les migrants croient en une idée de l'Europe qui n'existe pas en réalité. C'est juste une utopie qui leur est inaccessible. Mais les migrants ne sont pas les seuls à en être exclus. C'est le cas de beaucoup d'entre nous, les jeunes, la classe ouvrière, les chômeurs, les travailleurs précaires, ceux qui n'ont pas d'aide sociale. Et c'est aussi ce qu'il y a de beau quelque part. Les migrants et leur foi en l'Europe contrastent tellement avec ce qu'elle est réellement.
La vie est devenue difficile ici. On nous parle d'Europe, etc. Mais nous sommes très en retard par rapport aux Européens. Par rapport à l'Ouest, l'Allemagne, les Anglais, les Espagnols, nous ne sommes rien. Si j'étais un pauvre en Allemagne, j'aurais un autre niveau de vie. Il y a un manque total de perspective.
L'un des deux réalisateurs de ce film, projet pharaonique, 24 heures Europe, The Next Generation, est avec nous, c'est Vassili Silovitch, bonjour.
Bonjour.
Co-réalisateur avec Britt Beyer de ce film, et c'est le fruit d'un travail collectif, on imagine bien, pour pouvoir diffuser de 6 heures du matin à 6 heures du matin également, donc 24 heures. Et puis, pour discuter avec vous, Vassili Silovitch, de ce sentiment européen qu'ont nos voisins et de la vision de l'Europe qui peut se dégager des médias autour de nous, nous avons aussi invité Anissa El-Jabri. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, journaliste en charge de l'Europe à RFI. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, en charge de l'Europe?
Ça veut dire qu'on couvre à la fois ce qui se passe dans des pays donnés. Moi, je m'occupe plus spécialement de l'Autriche, de la Hongrie, d'où je reviens. Puis ça veut dire, effectivement, qu'on s'occupe de manière plus transversale de ce qu'on vient un petit peu d'entendre, du sentiment européen, de la perception que peuvent en avoir ces habitants, ces acteurs, ceux qui en sont d'ailleurs parfois un petit peu exclus, au-delà de ce qu'on voit aussi plus globalement dans l'actualité, ce qu'en font ces dirigeants, ces fameux sommets européens qui rebondissent de crise en crise.
Vous êtes en charge de l'Europe à RFI, mais pas seulement pour les élections européennes, Anissa El-Jabri, tout le temps. Mais est-ce que en ce moment, disons depuis quelques semaines ou quelques mois, vous faites plus de reportages, on vous demande de faire plus de sujets dans les pays de l'Union européenne? Est-ce que vous vous demandez à RFI plus globalement, comment intéresser les auditeurs à l'Europe? Question que se posent beaucoup de médias ces derniers temps.
Alors, on en fait tous beaucoup plus. Je crois que c'est relativement partagé. C'est aussi une mission de service public. On a choisi de faire des reportages en immersion dans des pays européens qui nous semblaient majeurs compte tenu des questions que tout le monde se pose en ce moment. Je pense évidemment à la question de la montée des populismes. Je dis des parce que c'est un vocable dont on peut quand même beaucoup discuter. Donc, on est allé longuement en Italie, en Pologne. Moi, je reviens de Hongrie. On a évidemment parlé des pays baltes, du Portugal. C'est vrai que la question d'intéresser, c'est toujours un petit peu troublant parce que je pense que les auditeurs, les citoyens sont intéressés par les modes de vie, sont intéressés par la manière dont les choses changent ailleurs. Je me souviens d'une interview que j'avais fait avec un chercheur bulgare qui s'appelait Ivan Krastev, qui nous expliquait que la crise dite des migrants, des réfugiés, avait effectivement été un point de bascule en Europe. Il avait aussi vu quelque quelque chose de positif dans ce qui est une secousse politique aussi qui perdure au sein de l'Union européenne. Il y avait vu quelque chose qui permettait l'émergence d'une opinion publique européenne. Il me disait, la crise des réfugiés, c'est comme après la crise de l'euro. Aujourd'hui, chaque personne en Europe a une opinion sur le droit d'asile dans un autre pays, sur la manière dont les gens ont été accueillis. Ça signifie aussi qu'il se passe quelque chose, que les choses progressent.
Vassili Silovitch, est-ce que cette opinion publique européenne a émergé de tout ce film que vous avez coordonné et de toutes ces paroles, je répète, hein, ces 60 jeunes européens de 15 à 30 ans qui s'expriment dans ce projet?
Ben, j'espère que les 24 heures font émerger une image européenne dans ce sens-là, c'est-à-dire...
Plutôt positif, c'est pas vraiment ce qu'on a entendu dans les trois très courts extraits qu'on a pris. Hein.
Disons que c'est très mélangé. En réalité, c'est très complexe. On ne peut pas limiter l'image de l'Europe à une seule idée, même si on s'est habitué à la fois à trouver l'Europe ennuyeuse, à la fois à la trouver en crise en permanence. Et chacun aime, nous le savons tous, taper sur cette pauvre Europe. En réalité, en tous les cas, quand on se donne la possibilité que nous avions formidable d'observer d'une manière aussi large, d'est en ouest, l'Europe géographique, je rappelle que c'est ça le cadre de notre film, c'est pas que l'Union européenne.
Il y a 26 pays, hein.
Il y a
sur
26
les 28
pays.
Membres justement de l'Union européenne, il y en a 26. C'est quoi les deux qui n'y sont pas?
Alors, il y a la Russie qui fait partie de notre film. Il y a l'Ukraine qui en fait également partie. Et d'ailleurs, c'est très important, la place de l'Ukraine dans, dans les 24 heures. On vient d'entendre Alexandre, un jeune soldat, capitaine de l'armée ukrainienne qui est au front dans le Donetsk, dans la région frontalière à la Russie. Et ça rappelle aussi, notre Alexandre est un des exemples, et ça rappelle qu'il y a toujours la guerre en Europe, chose qu'on a tendance à oublier parce que nous sommes bien protégés dans notre Union européenne, quand même relativement tranquille, si on veut, mais qui de l'intérieur bouge énormément. Et alors, pour revenir à votre question, les jeunes, effectivement, donnent une image très complexe, variée. Moi, je trouve ce qui se dégage est l'image d'une génération qui a pris tellement l'habitude, de toute façon, d'être européenne, qu'ils ne se posent presque plus la question. C'est pas qu'ils remettent en question l'Union européenne, notamment, c'est que pour eux, c'est déjà une étape passée. Ils n'ont pas cet idéalisme qui fait partie de ma génération, où on est encore dans la fierté d'avoir accompli cette chose extraordinaire, je trouve,
qu'est l'Union européenne. C'est une réalité quotidienne pour eux, c'est une évidence.
Oui, c'est une évidence, et c'est peut-être le danger aussi. Mais dans le projet qu'on a fait, l'idée était de toute façon de ne pas partir avec une idée préconçue, ni positive ni négative. On est tous, nous qui avons travaillé dessus, des pro-européens, je ne m'en cache pas. Mais effectivement, l'idée était de laisser au spectateur le choix et l'interprétation de ce qu'il voit.
Anissa El-Jabri.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi, justement, sur finalement la manière dont l'Union européenne est installée, c'est qu'elle reste un cadre. Moi, je sais que on en parlait juste avant d'entrer dans ce studio, un des personnages qui m'a une des scènes que j'ai trouvé assez fascinante, c'est ce groupe de jeunes patriotes pro-Poutine qui est réuni à Magnitogorsk, donc qui est tout à l'est, à la frontière entre l'Europe et l'Asie. Alors ceux-là sont patriotes pro-Poutine et développent un discours. L'un d'eux dit notamment, moi je crois qu'on ne peut rien faire en dehors d'une dictature, mais son discours...
Et seule la dictature peut garantir une union, dit-il aussi.
Mais son discours en creux dit aussi qu'il se définit par rapport à ce qui se passe dans l'Union européenne, quand il dit ce modèle ne marche pas, etc., etc., on voit bien que ça reste comme un point de référence. Alors on sait pourquoi d'ailleurs ces choses-là sont dites, parce que c'est le cas de la Russie, c'est aussi ce qui se fait beaucoup en Hongrie, un petit peu en République tchèque, ces pays-là, pour pouvoir aussi continuer à entretenir une adhésion, ou en tout cas pas forcément laisser le choix, hein, sur le fait que tout le monde suive un pouvoir alors très autoritaire en Russie, et puis un petit peu plus compliqué à définir en Hongrie, mais en tout cas, c'est un pays sur lequel l'Union européenne l'a dit, il y a des dérives sur l'état de droit. Eh bien, ces pays-là montrent une image de l'Union européenne qui est toujours un petit peu troublante pour un Européen. Quand on regarde ces médias, on a l'impression que l'Europe est à feu et à sang, et on peut l'entendre dans ce discours-là. Malgré tout, c'est toujours un petit peu intéressant parce qu'on sent que chez ces jeunes qui voyagent, il y a une image qui est un petit peu ambivalente. On se demande toujours un petit peu si c'est une manière de une forme d'attirance-répulsion, je dirais. En tout cas, c'était cette scène-là disait en creux quelque chose, malgré tout, de la force de l'Union européenne, je crois.
Vassili Zivic.
Alors, pour reprendre l'exemple russe, on a tourné donc à Magnitogorsk, qui est vraiment sur les bords de l'Europe telle qu'elle se définit géographiquement. Et puis, on a tourné à Moscou un jeune médecin très impliqué dans la cause de la protection des droits des homosexuels. Il se bat pour des droits à accès à des aux soins pour les gens qui ont le sida, chose qui est encore quasiment pas abordée en Russie. Et là, on est confronté à l'intérieur du même pays à une toute autre mentalité qui est déjà beaucoup plus proche de l'Europe et qui est en contact avec les problèmes qui nous concernent. C'est vrai que c'est un pays immense et il est impossible de figer en fait la jeunesse européenne et la jeunesse russe à des pro-Poutine, anti-Poutine.
Oui, mais justement,
c'est très complexe là encore.
Justement, Vassili Silovitch, comment avez-vous sélectionné les personnages de ce film? Est-ce qu'ils incarnent une aspiration ou un thème central du débat européen? Est-ce qu'ils incarnent leur pays? Non, répondez-vous en tous les cas pour certains trucs. Comment vous avez fait pour les rencontrer tous?
Alors, c'est un...
Pas vous tout seul, hein, je répète. Oui. Hein.
Non, c'est un travail qui s'est fait vraiment, et je tiens d'ailleurs à remercier globalement l'ensemble d'une équipe qui, dans le générique, fait 500 personnes environ qui ont travaillé sur ce projet. C'est des équipes de recherche sur place dans chaque pays. C'est des équipes de journalistes, de chercheurs, etc. C'est la production. Donc tous ensemble, on a fait cet immense travail. Et le début était de se concentrer sur des grandes thématiques presque sociologique en fait.
Écologie, chômage, mobilité, sécurité,
exactement, transformation, enfin passage de l'industrie traditionnelle au numérique, qui est d'ailleurs Magnitogorsk aussi, parce qu'on a un ouvrier...
Tout revient à Magnitogorsk en fait.
Oui, beaucoup, c'est étonnant. Ce matin, on est très Magnitogorsk. Pourquoi? Parce que je viens de voir avec beaucoup d'émotion, à 6h du matin, le début de 24h, et effectivement... à 6h du matin chez nous à Magnitogorsk, il était 9h et la vie était déjà très en cours, donc on démarre beaucoup à cet endroit-là.
On ne voit pas donc on voit très peu d'interviews, hein, il faut dire juste un tout petit mot du dispositif, on voit peu d'interviews de ces jeunes, on les voit vivre, on les voit travailler, on les voit manger, on les voit discuter, se réunir, etc. Et puis de temps en temps, des questions leur sont posées sur tel ou tel grand thème, et les fameux dont vous parliez, Vassili Silovitch. Mais est-ce qui se dégage de ce que vous dites l'un et l'autre, une différence malgré tout, on va quitter Magnitogorsk, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, puisque vous insistez beaucoup sur la géographie de cette Europe?
Oui, forcément.
On parle beaucoup de ces fractures hein, aujourd'hui.
Il y a, et bien sûr, l'Europe donne une image d'ailleurs très fracturée, et c'est même parfois, on se questionnait, est-ce que, alors qu'on voulait faire, sans le dire malgré tout, on pensait faire quelque chose qui est dynamique et positif. Par moment, on se questionnait nous-mêmes, est-ce que finalement l'image n'est pas profondément aussi inquiétante de ce qui se dégage à cause de cette fracture qui fait que malheureusement, on se retrouve malgré nous avec une situation qui fait que le nord de l'Europe est quand même apparaît comme très stable, très forte, y compris économiquement évidemment, et que également malgré nous, on se retrouve un peu avec un sud de l'Italie où un jeune homme nous raconte qu'il a dû aller travailler à l'usine de Fiat pour soutenir ses parents qui étaient tous les deux au chômage. Et tout d'un coup, on se retrouve à une toute autre réalité, beaucoup plus cloisonnée, beaucoup moins mobile, beaucoup moins clinquante de ce qu'on connaît de cette jeunesse qui est par ailleurs, évidemment, avec Erasmus, etc., a pris l'habitude de voyager et d'être interconnecté.
Oui, parce qu'il faut insister sur la jeunesse, Anissa El-Jabri, de tous vos voyages, en particulier en Europe centrale. Vous revenez en disant que vous voyez une fracture, pour le coup, moins géographique que générationnelle.
Une fracture générationnelle, et c'est là où la mobilité n'est pas nécessairement aussi quelque chose qui est extrêmement positif à l'Est. Une partie de la jeunesse s'en va. Elle s'en va parce qu'elle va trouver des opportunités. On le voit très bien dans votre film, quand cette jeune fille de Belgrade, d'ailleurs, arrive en Allemagne parce qu'elle ne trouve pas d'opportunités professionnelles. Elle est quand même interne en chirurgie et qu'elle dit à l'aéroport à ses parents, les nuages ont disparu quand je suis arrivée au-dessus de l'Allemagne. D'ailleurs, ici, tout est plus beau quand on est dans l'Union européenne. Il y a ces opportunités professionnelles. Il y a aussi une société qui peut être aussi perçue comme parfois plus ouverte, plus tolérante. C'est plus facile d'être homosexuel à Paris, à Berlin, à Londres et même en Espagne que de l'être dans une campagne polonaise, pour dire les choses de manière très 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 schématique. Et c'est aussi une difficulté pour ces pays-là, dans lesquels restent finalement les personnes les plus âgées, celles qui sont le moins mobiles, le moins diplômées, qui ont un sentiment de dépossession d'un pays qui est de pays qui déjà n'ont pas eu de prise sur leur destin, avec des campagnes qui se vident où ne restent que des personnes âgées et pour lesquelles leur rapport à l'Union européenne est un rapport de grande difficulté. À la fois, c'était enfin revenir, ne plus être sous l'oppression soviétique, un vrai symbole important. Je rappelle que ça fait une quinzaine d'années, à peine on a commémoré ça le 1er mai, que ces pays-là sont rentrés dans l'Union européenne. Et à la fois, ça a voulu dire que leur jeunesse est allée chercher des opportunités ailleurs.
Qu'est-ce qui les inquiète le plus, Vassili Silovitch ? Qu'est-ce qui ressort, leur avenir, le travail, le climat, l'immigration?
Un peu de tout, ouais. Un peu de tout ça. C'est vrai que je pense que le travail reste un sujet majeur.
Ça qui, partout.
Partout, oui. Alors effectivement. On pourrait presque nous faire le reproche et on acceptera de le discuter, mais le problème du travail, on l'a abordé en Grèce avec un jeune homme, Yorgos, qui voudrait faire carrière en tant que sportif de haut niveau, mais doit vivre chez ses parents dans une situation très tendue et ne trouve pas de travail, survit avec des jobs dans une Grèce post-crise ou encore crise, on ne sait pas trop. On est au Portugal avec une jeune femme qui conduit des touristes avec son tuk-tuk alors qu'elle est diplômée et qu'elle n'a pas trouvé de travail dans son domaine au Portugal. Et tout d'un coup, effectivement, cette peur de l'avenir se cristallise beaucoup autour du travail.
Et vous qui revenez juste d'un mot, Anissa El-Jabri, de la Hongrie, vous avez constaté la même chose ?
On a constaté qu'on a une partie de la population qui choisit de se dire que ça pourrait s'améliorer, mais pour elle, pour le globalement de la population, c'est l'inquiétude qui domine. On a peur de l'Europe, on a peur et on croit, ce que dit Viktor Orban, que l'Europe organise un lobby pro-migrant, étouffe le pays. C'est assez sidérant. Une pétition a été lancée pour suivre ce que dit le gouvernement. 1,5 million de signatures sur un corps électoral de 8 millions, ça dit beaucoup. Et je l'ai vu à Budapest, les gens signent, l'approuvent, ça fonctionne.
On écoutera d'ailleurs ce que vous rapportez de Hongrie sur RFI et on regardera quelques-uns, parce que tout c'est compliqué quand même. Hein. On piochera donc dans ces 24 heures Europe The Next Generation qui est diffusée sur Arte depuis ce matin 6h et jusqu'à demain matin 6h, puis en replay pendant un an en 6 langues jusqu'au 2 juillet sur Arte TV. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin.